Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Marie-Madeleine Dreux d'Aubray, son nom ne vous dit rien ? Espérons surtout que le vôtre ne lui dise pas quelque chose. Je vous raconte maintenant celle qui fut l'une des plus célèbres empoisonneuses de l'histoire, connue sous le nom de la marquise de Brinvilliers. Vous savez naturellement pourquoi on trinque avant de boire. Derrière cette joyeuse tradition se cache une question de vie ou de mort. Au Moyen-Âge, la confiance ne régnait pas vraiment entre les gens. La trahison était monnaie courante et pouvait survenir n'importe où. Pour se débarrasser des ennemis, rien de mieux que le poison. Arme idéale du crime parfait, il donne l'illusion d'une mort naturelle. Alors, pour être sûr que la personne avec qui l'on boit n'a pas mis quelques gouttes de poison dans notre breuvage, on entrechoquait les verres pour mélanger les boissons. Si l'autre buvait sans retenue, alors c'était sans risque. On a beau s'armer de prudence, la technique de l'empoisonnement perdure, jusqu'à atteindre son paroxysme à la fin du XVIIe siècle. À partir de 1670, Paris est en proie à un grand nombre de morts suspectes. Parlementaires, princesses, secrétaires d'État, tout le monde y passe. Hein. Et la rumeur s'affole dans la capitale. Il est question de drogue, poudre de succession et autres substances vénéneuses. La méfiance est donc de rigueur. Tous les mets, sauces et boissons sont inspectés. Saint-Simon écrit dans ses mémoires « Il semble qu'il y ait dans certains temps des modes de crime comme d'habits. Du temps de la Voisin et de la Brinvilliers, ce n'était qu'empoisonneur, ou plutôt empoisonneuse. La Brinvilliers, c'est une marquise originale qui a tué toute sa famille à l'arsenic. Elle a lancé la célèbre affaire des poisons dans laquelle tout le monde a trempé, même à la cour. C'est sous le nom un peu long de Marie-Madeleine Anne Dreux d'Aubray qu'elle voit le jour à Paris en 1630. Sa mère meurt en couche, ce qui lui évite de voir sa fille se transformer en tueuse en série. Issue de l'aristocratie, Marie-Madeleine grandit entourée de domestiques. L'un d'eux la viole alors qu'elle n'a que 7 ans. Vers l'âge de 10 ans, ensuite, elle se donne à ses frères, Antoine et François, parfois jusqu'à 3 fois par semaine. Ce n'est donc pas sa virginité qu'elle offre à Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers, lors de leur mariage, le 20 décembre 1651. Mais une dot de 200 000 livres quand même, une dot que le mari s'empresse de dépenser. Oui, cet homme-là est un joueur invétéré. Et autre vilaine manie, il collectionne les maîtresses aussi. Loin de se laisser abattre, Marie-Madeleine fait de même. Elle donne naissance à 6 enfants. On raconte que 3 seulement sont du marquis. À 28 ans, la marquise de Brinvilliers, à la beauté ravageuse, tombe amoureuse. L'heureux élu est un ami de son mari, un jeune officier de cavalerie qui répond au nom de Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix. Le problème, c'est que le père de la marquise, lieutenant de police, n'approuve pas cette liaison qui dure depuis 2 ans. Mais il a une solution un peu radicale, il est vrai. Il fait embastiller le séducteur par lettre de cachet en 1663, et voilà l'affaire réglée. À la Bastille, Godin de Sainte-Croix partage sa cellule avec un Italien du nom d'Exili. Ce qu'il fait dans sa vie ? Alchimiste, disons plutôt empoisonneur. Le jeune officier qui a déjà suivi les cours du pharmacien Christophe Glaser au Jardin Royal des Plantes s'instruit auprès de ce nouvel ami. Sait-on jamais, tout cela pourrait lui être utile quand la vengeance aura sonné. Mais 6 semaines ne suffisent évidemment pas à séparer les jeunes amants. À sa sortie, Godin de Sainte-Croix retrouve sa marquise et va lui apprendre à manipuler les toxiques. Opium, arsenic, vitriol, la Brinvilliers passe rapidement maîtresse dans l'art de préparer des potions, notamment le breuvage à base d'arsenic, mis au point par une certaine Giulia Toffana, celle qui crée un poison pour les épouses désireuses tuer leur mari dans la Rome antique et qui serait à l'origine du meurtre de plus de 600 hommes au XVIIe siècle. Depuis la Renaissance, on détecte les plantes tueuses. C'est pourquoi il faut procéder à des mélanges. Selon la légende, la marquise se serait entraînée sur des malades de l'Hôtel Dieu. À chaque fois, les médecins concluent à des morts naturelles, ni vues ni connues. Parfait. Marie-Madeleine peut maintenant passer à l'action. Pour se venger d'avoir fait enfermer celui qu'elle aime, et aussi pour hériter, puisqu'elle aime l'argent autant que son amant, l'arsenic est d'ailleurs surnommé, je vous l'ai dit, la poudre de succession, la marquise s'attaque d'abord à son père. Mais pour qu'on n'y voie que du feu, elle prend son temps. Ce qui ne manquera pas d'épouvanter Madame de Sévigné, qui a suivi l'affaire de près et qui l'a largement commenté dans ses célèbres lettres. Assassiner est le plus sûr, C'est une bagatelle en comparaison d'être 8 mois à tuer son père et à recevoir toutes ses caresses et toutes ses douceurs où elle ne répondait qu'en doublant toujours la dose. Le 10 septembre 1666, le père Dredobray rend son dernier souffle. Pour hériter entièrement, il faut se débarrasser des frères encombrants maintenant. Ceux qui l'ont violée quand elle était enfant. Alors, la marquise les empoisonne, eux aussi. En 1670, la rumeur l'accuse d'être responsable de la mort d'Henriette d'Angleterre. Elle aurait fourni le poison ayant tué la belle-sœur du roi Louis XIV. De leur côté, les médecins penchent plutôt pour une péritonite ou une occlusion intestinale. La marquise de Brinvilliers s'en prend aussi au marquis, son infidèle et dépensier mari. Et la surprise, son amant l'en empêche. Madame de Sévigné raconte ainsi « Elle aimait ce Sainte-Croix, elle voulait l'épouser et empoisonnait fort souvent son mari à cette intention. Sainte-Croix, qui ne voulait point d'une femme aussi méchante que lui, donnait du contrepoison à ce pauvre mari, de sorte qu'ayant été ballotté 5 ou 6 fois de cette sorte, tantôt empoisonné, tantôt désempoisonné, il est demeuré en vie. » Sainte-Croix se méfie de la marquise. Pour la faire chanter, il enferme les preuves de sa culpabilité, dont des fioles de poison dans une cassette, à n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise. Pas de chance pour la Brinvilliers. Il meurt prématurément et naturellement en juillet 1672. En fouillant sa chambre, la police découvre le poteau rose. Où est la marquise? Eh bien, elle a pris la poudre d'escampette. Réfugiée d'abord à Londres, elle se cache dans un couvent près de Liège. Condamnée par contumace en 1673, elle est finalement retrouvée 3 ans plus tard par un policier déguisé en prêtre. Le procès peut commencer. Nous sommes en mai 1676 à la Conciergerie, un lieu que l'écrivain Alexandre Dumas qualifiait de « chambre de la question ». Torturée, oui, gavée d'eau à l'aide d'un entonnoir, la marquise de Brinvilliers, effectivement soumise à la question, ne donne aucun nom. Au cours de son ultime interrogatoire face au procureur général du Parlement de Paris, si elle avoue ses crimes et écrit sa confession, elle reconnaît seulement qu'il y a beaucoup de personnes engagées dans ce misérable commerce de poison et des personnes de condition. La justice est piquée au vif. La condamnation à mort tombe sans grande surprise. Le 17 juillet 1676, place de Grève à Paris, le bourreau André Guillaume est en place. Son épée à la main, la marquise monte sur l'échafaud en robe de bure. Si la mort ne semble pas l'effrayer, les Parisiens présents en nombre sont émus par cette scène. Le bourreau passe près d'un quart d'heure à la raser, la dresser, la redresser, puis il la décapite d'un unique coup sec. Fier de lui, le bourreau essuie son sabre droit, se retourne et conclut « N'est-ce pas là un bon coup ?» Puis il jette le corps et la tête de la Brinvilliers sur le bûcher. Le peuple fouille dans les braises encore chaudes pour dénicher des os en guise de reliques. Les valets du bourreau dispersent ses cendres dans la Seine, ainsi que l'ensemble des fioles et poudres retrouvées. Mais il est trop tard. Le poison continue de faire effet et a infiltré l'ensemble du royaume. On ne peut plus distinguer les morts naturelles et les empoisonnements. Les maris encombrants, les héritiers gênants, tous disparaissent. Et même les gens de la noblesse. Le roi n'en peut plus. Lui-même craint pour sa vie. Le 7 avril 1679, il établit une cour d'exception, la chambre ardente, spécialement chargée d'instruire et de juger une affaire de poison. Cette affaire éclabousse tout le monde, même la maîtresse du roi. Madame de Montespan est suspectée. Mère de 7 des enfants de Louis XIV, elle aurait demandé à la célèbre Lavoisin, autre personnage central dans l'affaire des poisons, encore plus cruelle que la Brinvilliers, non pas du poison, non, mais des filtres d'amour pour conserver l'amour du roi. Du coup, c'est râpé. Le roi l'a remplacé par la maintenant. L'affaire des poisons constitue l'une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps. Elle fut initiée par la marquise de Brinvilliers qui, pour l'historien Jules Michelet, était l'archétype de la décadence morale du XVIIe siècle. Ce siècle de Louis XIV qui était aussi finalement celui des poisons.
Europe 1, historiquement vôtre.